Salut et bienvenue. C'est le pasteur Esther. Merci d'avoir choisi ce podcast. Je crois que Dieu a des choses surprenantes dans ton futur. C'est ma prière que tu reçoives une parole riche et encourageante en écoutant ce message.
Est-ce que nous pouvons prier? Père éternel, nous te disons merci pour la grâce de recevoir de toi aujourd'hui. Nous sommes ce que nous sommes parce que tu choisis de pouvoir nous parler. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas mettre de côté ce que tu as à nous dire. Viens prendre le plein contrôle de ces moments et que tout ce qui va être dit soit inspiré de toi. Que les cœurs soient réceptifs. Je prie, Seigneur, que dans ta miséricorde, tu touches tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous a bloqués et qui nous a empêchés de pouvoir prendre de nouvelles résolutions pour avancer. Éternel, viens prendre le plein contrôle. Saint-Esprit, viens encore faire ce que tu sais faire de mieux. Que ton nom soit béni dans nos cœurs, dans nos vies, et qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions marcher différemment au nom de Jésus. Reçois la louange et la gloire, Père Saint. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et tout le monde dit Amen. Aujourd'hui, sans plus tarder, j'aimerais parler de « Avance malgré ta douleur ». Tout au long de la Bible, nous avons pu tirer quelques exemples de certaines personnes qui avaient été blessées d'une manière ou d'une autre, blessées de différentes manières. Mais Dieu, dans sa miséricorde, prend le temps de pouvoir nous enseigner à travers sa parole, à travers la vie des personnes qui ont été sélectionnées pour être mises dans le livre saint. Et la Bible nous dit que tout ce qui a été écrit, l'a été pour notre instruction, n'est-ce pas, afin que nous puissions tirer exemple. Et je prie qu'aujourd'hui nous tirions exemple de ce qui s'est passé dans la vie de certaines personnes, apprendre et pouvoir avancer, parce que ce que tu traverses là, je te promets bien-aimé, que c'est juste quelque chose de très petit et que Dieu veut utiliser cela pour la gloire de ton nom. Donc sois réceptif et puis allons-y un peu dans l'histoire de Naomi. Ruth chapitre 1. À partir du verset 1, que nous dit la parole? Du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils, Machlon et Kildion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixaient leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Verset 5. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Nous allons faire une pause ici. Voici une dame dont la Bible parle, une fille d'Israël, qui quitte son pays à cause d'une situation et qui va dans un autre pays pour pouvoir davantage établir sa famille, que sa famille soit à l'aise et également leur vie puisse continuer. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous remarquons au bout de quelques années que son mari est décédé et ses enfants également sont décédés. Bien-aimée, je viens te poser une question. Est-ce que tu sais que dans la vie, il y a des événements qu'on ne planifie pas qui arrivent? Naomi était loin de s'imaginer qu'elle allait être veuve et qu'elle allait perdre ses deux enfants. Elle était loin de s'imaginer. Tout comme toi, tu avais également des projets. Tu avais déjà tout planifié. Mais quelque part, en cours de route, un choc, une nouvelle, une décision a été prise. Quelque chose d'inattendu est arrivé et tu as reçu un coup. Un coup qui t'a abattu moralement, spirituellement, financièrement, émotionnellement. Et tu t'es dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, où es-tu? Bien-aimé, est-ce que tu sais que rien ne surprend Dieu? Est-ce que tu sais que la parole de Dieu nous garantit qu'aucune chose ne nous arrive sans que Dieu non seulement n'en soit informé, mais que nous l'ait permis également? Je veux toucher un peu ici à quelques points. Peut-être que tu as perdu quelqu'un de cher. Quelqu'un qui était une autorité sur ta vie, un parent. Peut-être même que c'est une chaîne de personnes qui sont décédées près de toi, autour de toi. Et tu te dis, je ne sais pas ce qui ne va pas dans la famille. Certainement, c'est moi qui suis le prochain sur la liste. Et tu vis dans la peur. Ton cœur est meurtri. Tu te demandes comment est-ce que je vais vivre sans tonton, sans le grand-père, sans maman, sans papa. Et tu te sens perdu. Et cette situation-là dure depuis des années maintenant. Tu ne te retrouves pas. Une fois que tu es malade, tu te dis, ça y est, c'est certainement mon tour. Les sorciers ont commencé déjà à bouffer les membres de la famille. Décembre arrive. C'est certainement mon tour. Et tu vois que tes forces t'affaiblissent. Ton moral est bas. Tu te dis, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis ça? Et parce que tu as vécu une série de personnes qui sont décédées autour de toi, tu te dis certainement que Dieu a commencé à dormir et à manquer de garde, à arrêter de veiller sur toi. Bien-aimé, est-ce que tu sais que rien ne surprend Dieu? Rien ne le surprend. S'il connaît une des choses qui me réconforte quand je lis la parole de Dieu, c'est que nous lisons dans Matthieu que Dieu connaît le nombre de nos cheveux, le nombre de cheveux sur ta tête. Il le connaît. Tu peux voir cette belle phrase-là en Matthieu chapitre 10, verset 13, où Christ nous dit que même les cheveux de nos têtes sont tous comptés, tous, y compris ceux qui tombent et que tu ne sais même pas le nombre. Rien ne surprend le Père. Et Dieu veut aujourd'hui te guérir. Dieu te tend la main aujourd'hui afin que tu sortes de cette prison-là et que tu saches que ce n'est pas parce que une chose est arrivée à tel membre de ta famille, telle personne autour de toi, que cette même chose-là va t'arriver à toi. Alléluia! Une autre douleur à laquelle tes personnes font face, c'est l'échec à l'école. Tu as passé soit le CP, le BPC ou bien le bac et tu as échoué, pas une fois, pas deux fois. Et tu te dis, c'est fini pour moi. Je vais m'arrêter ici. Je vais faire une petite formation et puis je vais avancer. Et puis c'est bon comme ça. Je ne continue plus dans cette histoire d'avoir forcément le bac. Mais tu sais, bien-aimé, moi qui te parle, j'ai passé le bac trois fois et je me suis reposé une année. J'étais découragée, j'étais abattue. Non seulement je venais à peine de perdre ma mère, je n'avais pas de soutien. J'étais fatiguée, j'étais essoufflée. J'étais perdue, mais j'ai passé le bac une fois, ça n'a pas marché. J'ai passé le bac une deuxième fois, ça n'a pas marché. Et je me suis dit en moi-même, je ne repasserai plus le bac. C'est bon, je vais m'asseoir. Et je suis restée à la maison pendant une année. J'ai fait une année blanche à la maison. Et c'est quand j'ai échoué au bac pour la deuxième fois, pendant les vacances, le 14 juillet, que Christ a tapé à la porte de mon cœur. Et toute l'année où je suis restée à la maison, il a tout fait pour attirer mon attention, pour me dire, je veux que tu reprennes la route de l'école. Mais à chaque fois que je faisais des songes où je repartais à l'école, quand je me réveille le matin, je liais les songes, je dis non. Vous savez que les chrétiens, ils sont zélés, non? Quand je me réveille le matin, je dis, esprit de bleu blanc, je te lis au nom de Jésus. Bleu blanc, c'est l'uniforme qu'on portait pour aller à l'école. Et quand je me réveille, je dis, toi, esprit de bleu blanc, je te lis au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, je te lis au nom de Jésus. Mais est-ce que vous savez que quand Dieu veut vous faire passer par certaines épreuves pour vous apprendre quelque chose, même si vous liez l'esprit de bleu blanc, même si vous liez la situation, si Dieu voit que c'est un passage obligé pour toi, quel que soit ce que tu vas lier, lui qui a le pouvoir de lier les choses spirituellement, quand nous les lions physiquement dans la prière, il ne liera pas ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est un passage obligé pour toi. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Parce que nous sommes blessés, parce que nous sommes dans la douleur, parce que nous ne voyons aucune autre alternative. Nous utilisons nos armes charnelles, les armes du découragement, en nous disant non, c'est bon, Dieu n'est pas avec moi. Qui t'a dit que parce que ton cœur est dans la douleur aujourd'hui, Dieu n'est pas avec toi? Moi aussi, je pensais que Dieu n'était pas avec moi. J'avais perdu ma maman, donc ça faisait de moi une orpheline totale. Je n'avais aucun soutien, j'étais délaissée à moi-même. Mais cette année-là, j'ai rencontré le Seigneur et il m'a dit, alors que j'ai lié les bleus blancs pendant toute l'année scolaire, je me suis assise en septembre, alors que c'est la rentrée des classes, amis, ça commençait à être la rentrée des classes. Et j'avais l'habitude d'aller chercher la face de Dieu, de me retirer pendant trois jours, quelque part, et je partais discrètement jeûner et prier pour connaître la volonté de Dieu. Et je me rappelle, en septembre de cette année-là, je me suis retirée et j'ai dit au Seigneur, je suis venue, pas pour te dire ce que je veux, mais pour entendre ce que toi tu veux me dire. Bien-aimé, Mon cœur saignait. J'étais perdu, rappelez-vous. Je me sentais seul, mais dans le secret. J'ai dit au Seigneur, je veux entendre ce que tu veux que je fasse. Et cette fois-ci, je vais obéir. Et c'est là, le deuxième jour, Dieu m'a dit, je veux que tu reprennes le bac. Les années précédentes, tu ne me connaissais pas. Mais cette année, je serai avec toi. Et j'ai dit au Seigneur, je lui ai dit ce que j'avais dans le cœur. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on prie, mais on ne parle pas à Dieu. Vous allez me dire, mais pasteur Esther, prier, est-ce que ça va parler à Dieu? Il y a des gens qui parlent à Dieu, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent à Dieu. Ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils disent à Dieu. Ils prient comme une formule, et puis c'est tout. Ils récitent les choses, et puis ils passent. Mais ce n'est pas ça, la relation avec le Père. Quand on a une relation avec quelqu'un, on parle avec cette personne-là. Et quand tu parles avec quelqu'un, tu le fais sachant que tu cherches quelque chose, tu veux entendre quelque chose, tu veux communiquer quelque chose. Mais beaucoup d'entre nous, la prière est comme une formule. Et puis on part, on passe. Voici pourquoi on peut sortir des moments avec Dieu. On ressort les mêmes, on ressort sec, on ressort découragé encore. Parce qu'on n'a pas parlé à Dieu. Parler à Dieu fait toute la différence. Alléluia. Et quand je me suis retirée pour parler, parce que je suis partie parler au Père, il a pris le temps de pouvoir me parler aussi. Et on a vu le résultat. Pourquoi est-ce que la Bible nous dit que quand nous rencontrons le Maître, on n'est plus jamais le même? Une heure dans ses parvis va mieux que mille ailleurs. Mais comment ça se fait que depuis des mois, tu vas à l'église, tu te réveilles le matin, tu pries, le soir, tu pries. Et comment ça se fait que malgré tout le temps où tu dis que tu pries, tu es toujours aussi dans la douleur, tu es toujours aussi découragé, tu es toujours aussi amer? C'est parce que tu ne parles pas à Dieu. Pourtant, c'est seulement des formulaires. Il faut que je prie, parce que si je ne prie pas, ma conscience ne va pas être en paix. Il faut que je prie, parce que c'est la routine. Mais on n'a pas une relation avec Dieu pour vivre la routine. Et la relation avec Dieu, ce n'est pas la routine. C'est une intimité qui produit certains fruits qui nous rendent heureux. Et le Maître m'a dit, tu ne me connaissais pas, cette année tu me connais. Et j'ai dit au Père, regarde, là où je partais à l'école avant, j'ai échoué au bac deux fois. Je n'ai pas envie de repartir dans la même école. Même si c'est en face de ma maison. Et je n'ai même pas envie de partir encore dans le même quartier là pour partir à l'école. Je veux partir loin. Et c'est en cela que Dieu m'a dit, tu peux rester chez telle sœur. J'ai une grande sœur qui s'appelle Eva. Il dit, tu peux rester chez Eva pour partir à l'école. Et puis je lui ai dit, dans quelle école veux-tu que je parte? Vous voyez, j'étais en communication, en conversation avec le Seigneur. Et dans cette conversation-là, Dieu, j'ai pris le temps de pouvoir étaler toutes mes hontes, toutes mes peurs, tout ce qui me dérangeait, tout ce qui avait fait que j'étais restée au même niveau pendant une année, dans la honte. Quand je me suis retirée, j'ai donné tout ça au Père. Et il m'a dit ouvertement et audiblement, alors que j'étais couchée dans ma chambre, le troisième jour, il m'a dit, je veux que tu partes dans une école qu'on appelle la Colombe. Je ne connaissais d'abord pas le quartier où ma grande sœur habitait. Je n'avais jamais entendu parler d'une école qu'on appelle la Colombe. Jamais de la vie. Et j'ai dit, ok. Donc, au sorti de mes trois jours de jeûne et de prière, je savais ce que Dieu voulait, que je reprenne le bac. Je savais où il voulait que j'habite. Et je savais dans quelle école il voulait que je parte. J'étais équipée pour commencer une nouvelle année. Et mon cœur était rempli de joie. Quand ma grande sœur m'a demandé, au sortir de ces moments-là, elle ne savait pas que j'allais chez la face de Dieu. Et c'est là que je lui ai dit, je veux reprendre le bac. Et elle a dit, c'est une très bonne décision. Et c'est comme ça qu'au sortir de là, je suis partie chez ma grande sœur qui s'appelle Eva. Et je lui ai dit que je veux rester. Je ne lui ai pas dit que Dieu m'a dit, vous voyez, beaucoup d'entre nous, quand Dieu nous dit quelque chose dans le secret, on n'utilise pas la sagesse. On vient et puis on impose ça sur les gens. Dieu m'a dit que je dois rester chez toi. Non, on n'agit pas comme ça. Oui, oui, comment ça arrive? Et tu sais ce que tu fais. Beaucoup de gens, vous aimez intimider les gens avec « Dieu m'a dit ». Et quand vous savez que vous dites que « Dieu m'a dit », personne ne peut parler là. Donc, vous aimez dire « Dieu m'a dit ». Non. Utilisons une autre manière de pouvoir agir avec sagesse. Et je lui ai dit « Oh, maman Eva, est-ce que je peux rester chez toi, partir à l'école ?» Elle a dit « Oui ». C'est comme ça que j'ai accepté. Je ne lui ai pas dit ce que Dieu m'a dit. Et elle m'a dit « Bon, comme tu as accepté le Seigneur et que tu changes de religion et tout ça, est-ce que tu peux pas dans une école qu'on appelle le roi des rois? » Je dis, le roi des rois. Elle a dit, oui, c'est une école évangélique et tout ça, te sentis bien. Je dis, maman, est-ce qu'il y a une école qu'on appelle la Colombe? Elle a dit, oui, mets-toi au balcon là-bas. Est-ce que tu vois le grand mur qui est là? L'école là, c'est l'école qu'on appelle la colombe. Je vous assure que j'avais la chair de poule. Je suis couchée dans mon lit quand on sonne le premier coup de l'école. Et c'est maintenant que je me lève, je m'apprête et je pars à l'école. Et cette année-là, devinez quoi? J'ai eu le bac. J'ai eu le bac. Et c'était une grande victoire et une grande délivrance. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je suis passée par l'échec à plusieurs reprises. Mais Dieu, dans sa miséricorde, ne m'a pas condamnée. Beaucoup d'entre nous, on pense que la raison pour laquelle on ne veut pas se donner entièrement, on ne veut pas ouvrir notre cœur entièrement à Dieu et lui parler de notre douleur, c'est parce qu'on pense que Dieu nous condamne. Mais Dieu ne nous condamne pas. Il n'y a aucun endroit dans la parole de Dieu où la Bible nous dit que Dieu est venu pour nous condamner ou bien Jésus-Christ est venu pour nous condamner. Pas du tout. C'est le diable qui culpabilise. C'est le diable qui condamne. Ce n'est pas Dieu. Certainement pour toi, ce n'est pas l'échec à l'école. On t'a renvoyé au travail. Et depuis là, tu es amer. Tu ne sais que faire. Tu te dis c'est injuste. Ça peut être injuste. Mais est-ce que tu sais que quand Dieu ferme une porte, il est sur le point d'ouvrir une autre porte? Quand Dieu permet qu'une porte se ferme dans notre vie, ça peut être de façon volontaire ou ça peut être qu'on ait fait une erreur. Ou bien ça peut être aussi une accusation. Tu n'as rien fait. Et puis on te renvoie du travail. Ton salaire était bien. C'est ton salaire que tu utilisais pour prendre soin de toi, prendre soin de certaines personnes. Mais te voilà aujourd'hui au chômage. Et depuis là, ton cœur est amer. Tu n'as plus envie de chercher du travail. Tu rumines depuis. Et ça fait des mois. Certainement le Covid a fait qu'on t'a licencié du travail. Et depuis, on ne t'a pas encore rappelé. Et tu as mal. La galère a frappé à la porte. Tu as dû vendre tout ce que tu avais pour pouvoir payer le loyer, pour pouvoir survivre. Beaucoup de personnes ont perdu le travail, des millions de personnes ont perdu le travail. Mais je viens te dire que Dieu n'est pas fatigué de prendre soin de toi. Tout comme Naomi, tu peux avoir tout perdu. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, tu vas un peu voir ce que Dieu réserve pour toi. Peut-être que pour toi, ce n'est pas que tu as perdu le travail. Tu travailles en ce moment. Mais la trahison, la déception de ton conjoint, de quelqu'un que tu aimais, certainement tu as quitté le foyer conjugal, tu es en voie de divorce. On t'a chassé de la maison conjugale. Ta belle famille a comploté contre toi, malgré tout le bien que tu leur as fait. Tu es parti de la maison. Ton mari a pris une autre femme. Ou bien même si tu es un homme, tu t'es fait remplacer dans le cœur de ta femme, dans la vie de ta femme. Et depuis là, tu te dis, je ne veux pas pardonner. Depuis là, quand tu dors et que tu te réveilles au milieu de la nuit, tu es triste. Ton cœur saigne et tu n'as plus envie d'aimer. Tu es au même endroit et tu ne fais que ruminer. Pourquoi est-ce qu'elle a pu me faire ça? Pourquoi est-ce qu'il a pu me faire ça? À l'âge où je suis, qui va venir m'épouser? Qui va venir m'épouser? Avec les enfants qu'on a eus, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourtant, j'ai fait ce que je devais faire. À l'âge où je suis, qui va me prendre? Avec les enfants que j'ai, qui même va regarder dans ma direction? Naomi aussi est arrivée à un point où elle avait tout perdu. Certainement, toi, ce n'est pas qu'on t'a abandonné. Ou bien que tu passes à travers un divorce, mais tu es marié depuis et tu n'as pas d'enfant. Et la belle famille te met la pression. Et toi-même, tu te mets la pression. Et l'âge te met la pression. Et tu te dis, Dieu m'a oublié. Mais rappelle-toi un peu de l'histoire de Anne. Vous pensez que c'était facile pour Anne qui était mariée depuis et qui, elle et son mari, faisaient les choses justement devant Dieu. Son mari même a même pris une deuxième femme. Mais Anne n'avait toujours pas enfanté. Et elle avait tellement mal au cœur qu'elle n'osait même pas ouvrir la bouche quand il partait à Shiloh pour pouvoir prier. Elle murmurait, elle murmurait, elle murmurait. Seigneur, souviens-toi de moi. Elle n'osait même pas regarder, même en haut, l'amertume dans l'âme, la douleur dans l'âme, la tristesse dans l'âme. Elle murmurait, elle. La Bible nous dit qu'elle répandait son âme devant le Seigneur. Certainement, elle disait, regarde. Mon mari est parti prendre une deuxième femme. Et elle a accouché papitou, mamitou, papi, papounet. Elle ne fait qu'accoucher. Et moi, depuis tout ce temps-là, même mes menstrues, je n'ai même pas manqué. Je ne fais qu'acheter le coton hygiénique, mois après mois. Seigneur, il y a même une cargaison là-bas. Regarde, enlève ma honte. Fais quelque chose. Et toi aussi, tu te dis, fais quelque chose, Seigneur. Dans mon travail, fais quelque chose. Donne-moi du boulot. Tu es là et tu te dis, je me suis gardée durant tout ce temps. Donne-moi un mari. Tu répands ta douleur devant le Seigneur. Mais que dit Dieu? Qu'est-ce qu'il a? Quel mot il a pour toi? Et ce mot-là, tu vas l'entendre.
Si tu reçois cette parole-là, dis Amen. Et je ne peux pas finir sans toutefois prier avec toi. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Fais cette prière-là après moi. Dis, Père éternel, je te dis merci. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi tous mes péchés. J'accepte ton Fils Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, viens et règne en maître dans ma vie. Délivre-moi de tout mal et que ta volonté se fasse dans chaque aspect de ma vie. En ton nom, Seigneur Jésus, j'ai prié et je dis Amen.
Merci d'avoir écouté ce message. J'espère que cela t'a fait du bien. Rassure-toi de souscrire afin que tu reçoives tous les messages. Sache que nous prions pour toi. Dieu te bénisse. Salut et bienvenue. C'est le pasteur Esther. Merci d'avoir choisi ce podcast. Je crois que Dieu a des choses surprenantes dans ton futur. C'est ma prière que tu reçoives une parole riche et encourageante en écoutant ce message.
Je suis le pasteur Esther. J'ai commencé à enseigner sur Avance malgré ta douleur. Et dans la première partie, j'ai pris le temps de pouvoir citer beaucoup de situations que nous traversons qui nous laissent dans la douleur. Et dans cette deuxième partie, je veux tout simplement donner les étapes et nous dire ce que Dieu a en réserve pour nous. Donner les étapes de comment sortir de la douleur, comment avancer. Alléluia. La première des choses que toi et moi, nous devons faire, si nous voulons avancer, si nous ne voulons plus rester au même stade où nous avons été pendant des mois, pendant des semaines, pendant des jours, et même pour certains pendant des années, d'abord la première des choses, c'est de savoir que tu es limité dans ta force, dans tes capacités, dans tes pouvoirs à faire des choses. Tu es limité. Un, si tu reconnais que tu es limité, la deuxième des choses que tu vas devoir faire, c'est de pouvoir choisir volontairement de faire confiance à Dieu encore. C'est vrai, tu as été blessé. Ah, mais il y a des personnes qui m'écoutent aujourd'hui qui sont même amères contre Dieu. C'est vrai, j'ai été aussi amère contre Dieu. Mais après, quand j'ai choisi de faire confiance à Dieu, j'ai vu que ce qu'il avait fait a fait que moi-même, j'avais honte. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Vous êtes fâché contre Dieu. Maintenant, quand il vous montre un petit signe, mais quand il fait quelque chose sans moi net, vous avez honte. D'autres m'ont honte de dire merci. Et le merci que tu dois à Dieu, là, tu ne l'as pas encore dit jusqu'à maintenant. Parce que ce qu'il a fait est à fermer ta bouche, comme ce que les gens disent. Oh, je me rappelle. Dieu ne veut pas que nous puissions rester à la même place. Dieu ne veut pas du tout que nous soyons bloqués. Quand Dieu m'a parlé, quand je me suis retirée, en septembre là, de cette année-là, pour que je puisse aller de l'avant, je ne savais pas ce que Dieu voulait. Il m'a tout simplement dit, je veux que tu reprennes le bac. Les années passées, tu ne me connaissais pas. Mais cette année, je serai avec toi. C'est le même mot d'encouragement que Dieu va te dire. Beaucoup d'entre nous, quand nous avons été blessés par quelque chose, non seulement on ne veut pas trop admettre ça, on enfuit ça quelque part, on ne veut pas faire face à la douleur, et puis on ferme les yeux comme l'autruche qui, devant la difficulté, creuse un trou dans le sol, met sa tête dans le trou et ferme. Non, Dieu ne nous enseigne pas pour que nous soyons des autruches. Est-ce que tu sais, bien-aimé, que quand tu vas affronter ta douleur avec la foi en Dieu, tu vas sortir une meilleure personne? Est-ce que tu sais? Dieu ne veut pas que tu sois une personne médiocre et abattue comme tu l'es en ce moment. Non, il ne veut pas. Il vient te dire, reprends, si tu as arrêté d'aimer, recommence à aimer à nouveau. Et tu ne pourras trouver la force de pouvoir aimer, de pouvoir avancer, que quand tu vas décider volontairement de faire confiance à Dieu. Pas faire confiance aux hommes, pas faire confiance aux finances, pas faire confiance aux circonstances, non. Tout ça ne mérite pas ta confiance. Mais il y a une personne qui mérite d'être le roc sur lequel tu bâtiras ta vie, si tu ne l'as pas encore fait. C'est Dieu. Il ne sera jamais fatigué de toi. Il ne sera jamais fatigué de pouvoir prendre soin de toi. Et tout ce qu'il désire, c'est que tu puisses lui faire confiance à nouveau. Tu puisses te lever à nouveau. Secouer la poussière de toi. Poussière émotionnelle. Poussière financière. Poussière morale. Et choisis de pouvoir avancer. Choisis de ne pas rester à la même place où tu étais hier, où tu étais il y a 2 semaines. Alléluia. Quand nous prenons Ruth chapitre 1, toujours l'histoire de Naomi, quand nous prenons Ruth chapitre 1 à partir du verset 6, qu'est-ce que la Bible nous dit? Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Est-ce que vous voyez? Et Naomi a décidé, quand nous lisons un peu la suite, de se séparer de ses belles-filles. Je vais un peu lire, merci Saint-Esprit. Verset 8. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Verset 10. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi, vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. « Allez, je suis trop vieille pour me remarier. » Vous voyez, elle avait déjà scellé sa situation. Elle a dit, « Moi, je suis déjà vieille. Vous là, cherchez-vous. » « Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. » De ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi, verset 18, je saute, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle lui dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mêmes vies. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée ?» Voici un peu la pensée de Naomi. Elle s'est levée, elle est repartie dans son pays, et les gens contents de la voir maintenant, lui dit, « Oh, Naomi, c'est toi ça, tout le monde est content, mais elle... » Et elle dit, « Non, vous là, ne m'appelez pas Naomi. » Naomi veut dire « pleasantness » en anglais, c'est-à-dire ce qui fait plaisir. Et elle a dit, « Non, 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 appelez-moi Mara. » Mara veut dire « amer. » Est-ce que vous savez que souvent, quand Dieu nous entend parler, il nous regarde et puis il sourit? Ça, c'est à quel point on n'a pas confiance en lui. Elle, un enfant d'Israël, qui est parti, qui a tout perdu et qui est revenu, il y a une chose au moins qu'elle avait, c'était le nom de l'Éternel, et sa belle-fille Ruth. Ruth est attachée à elle. Et la Bible nous dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Souvent, on ne sait même pas ce que Dieu est en train de faire. Et 99,99,99%, on ne connaît même pas ce que Dieu a à cœur pour nous. C'est la vérité. On peut être des hommes de foi, mais on ne sait même pas ce que Dieu a pour nous. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans Ésaïe 55. Il dit quoi? « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. » La manière que Dieu a choisie pour te restaurer, ce n'est pas la manière que tu vois maintenant. Naomi était amère parce qu'elle ne savait pas ce que Dieu lui avait réservé. Mais quand nous lisons la suite de l'histoire, Dieu a utilisé le désir qu'il avait mis dans le cœur de Ruth pour suivre sa belle-mère. Il a utilisé Ruth. Il a donné un autre mari appelé Boaz. Et ils ont eu un enfant. Et la Bible nous dit, la Bible ne dit même pas que cet enfant-là même était pour même pour Ruth. Mais la Bible nous dit que Dieu a donné un autre fils à Naomi. Elle a pris l'enfant. Elle a élevé l'enfant. Donc Dieu, en d'autres termes, lui a donné une autre famille. La raison pour laquelle Je te demande si tu veux avancer malgré ta douleur, de faire confiance en Dieu. C'est parce que nous ne connaissons pas ses plans. C'est parce que la manière dont tu choisis d'être restauré, ce n'est pas la manière que Dieu a utilisée pour que toi, tu sois restauré. Il a utilisé quelqu'un qui a essayé de venir avec Naomi. Est-ce que vous comprenez? Il a utilisé Ruth. Et toute la vie de Naomi a été restaurée. Et Dieu a pu continuer son plan. Est-ce que tu sais que ce qui t'est arrivé là, même si c'est dramatique, ça fait partie du plan de Dieu pour toi? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que la clé de ta guérison, la clé de ton avancement sur tous les plans, c'est de ne pas faire confiance aux événements, mais c'est de faire confiance à Dieu? Naomi s'est levée malgré sa douleur et elle a marché de Moab jusqu'à Bethléem. Et Dieu, d'une manière subtile, l'a bénie. Est-ce que tu sais qu'il y a un endroit où Dieu t'attend pour te visiter? Un endroit où tu dois te lever pour avancer? Est-ce que tu sais qu'il y a une autre personne que Dieu a réservée pour être source de bénédiction et de restauration pour toi? Et que si tu restes au niveau où tu es aujourd'hui, si tu choisis de demeurer dans la douleur, tu ne verras pas cette personne-là. N'as-tu pas entendu l'histoire de Anne? N'as-tu pas entendu l'histoire de Sarah et d'Abraham qui, malgré toute la douleur, toute la honte, toute l'attente, parce qu'ils ont demeuré dans la foi, Dieu les a visités. Anne a prié avec ferveur. Et alors que le prophète Élie, le juge Élie avait déclaré quelque chose, le prêtre Élie avait déclaré quelque chose, elle a pris cette parole-là avec foi et elle a avancé. Est-ce que tu vas prendre la parole que Dieu te donne aujourd'hui avec foi afin de pouvoir avancer? La parole de Dieu pour toi aujourd'hui, c'est relève-toi, secoue la poussière de ton corps, secoue la poussière de tes émotions, secoue la poussière de ton vêtement et décide de faire confiance à Dieu encore. Pas faire confiance à Dieu pour qu'il fasse ce que toi tu veux, mais lui faire confiance pour que son plan pour ta vie continue, pour que sa volonté pour ta vie continue. Est-ce que tu sais un peu ce que Jérémie chapitre 29 verset 11 nous dit? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées. Pas dit les circonstances de ta vie. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Aujourd'hui, Dieu est en train de donner de l'espérance à travers ce message-là. Il te donne de l'espérance. Le verset 12 dit, « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Ça, ce sont des mots très encourageants qui viennent de Dieu. Et que Dieu permet que je te dise ça aujourd'hui. Quel que soit ce que tu as traversé, décide de lui faire confiance. Pas pour qu'il puisse te ramener la personne qui t'a laissé tomber, ou bien même le travail, mais pour que sa volonté puisse continuer. Naomi a refait confiance à Dieu et elle a avancé. Abraham a fait confiance en Dieu, malgré le fait qu'il n'arrivait même pas à être en âge de pouvoir avoir des enfants. Il a cru contre toute opposition et Dieu l'a béni avec Isaac. Est-ce que tu comprends? Même chose pour Anne. Elle a cru et Dieu l'a béni avec Samuel. Ne fais pas confiance en Dieu en lui imposant ce que toi tu veux qu'il fasse. Non. Mais laisse-le continuer. Naomi était loin de s'imaginer que sa vie allait être complètement restaurée quand elle a décidé de repartir sur sa terre. Certainement tu m'écoutes. Et tu es resté dans un endroit pendant de longues années. Et maintenant, il est temps pour toi de pouvoir changer de pays. Mais tu te sens perdu. Tu ne sais pas ce que tu vas faire de ta vie. Tu te dis, ah, quitter tout ça et puis repartir. Maintenant, avec de nouvelles directions. Et tu te dis, comment cela sera possible? Mais je viens te dire aujourd'hui, bien-aimé, fais confiance en Dieu. Dieu ne te bénit pas parce que tu es dans un endroit. Il te bénit et il va te garder parce que tu lui fais confiance. Toutes les personnes qui ont fait confiance en Dieu, leur vie a été tournée en prodige, en merveille. Fais seulement confiance à Dieu et ne laisse pas la douleur t'empêcher, t'aveugler au point où tu vas refuser de saisir la main que Dieu te tend aujourd'hui. La Bible nous dit dans le psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » David était arrivé à un moment où il était aussi découragé. Il est parti en guerre, il est parti combattre. Et quand il est arrivé, l'ennemi a pris sa famille en captivité. Sa femme et tout le monde, tout le village avait été pris en captivité. Mais la Bible nous dit, David se fortifia lui-même. Il se fortifia, bien-aimé. Il est temps, troisième étape, que tu puisses te fortifier toi-même. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que personne ne voudra et ne viendra faire pour toi, telles que te fortifier toi-même. Décide de te fortifier toi-même. Et tu te fortifies en te disant que je ne vais pas écouter la voix du diable qui me fait croire que ce divorce-là, c'est ma fin. Que le fait que je sois séparée avec mon mari, c'est la fin. Non, ce n'est pas ta fin. Fortifie-toi toi-même. Encourage-toi toi-même. Et quatrième point, prends de nouvelles résolutions pour ta vie. Décide de dire, je vais aimer à nouveau. Je vais pardonner encore. Je ne vais pas regarder au fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont décédées autour de moi, mais je vais faire confiance à Dieu. Malgré ce que les médecins ont dit de mon état de santé, je vais faire confiance à Dieu, sachant que c'est lui qui est le guérisseur par excellence et non la médecine. Est-ce que tu sais que les miracles existent toujours et que par la foi, tu peux être guéri? Ça dépend de toi. Décide de t'encourager. Décide de prendre de nouvelles résolutions. Décide de sortir à nouveau pour chercher du travail. Parce que Dieu est sur le point de te visiter comme il a visité Naomi. Alléluia. Fixe-toi de nouveaux objectifs. Point numéro 5. Fixe-toi de nouveaux objectifs. Quels étaient tes objectifs avant? Et qui, avec les circonstances, tu n'as pas pu voir. Fixe-toi de nouveaux objectifs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout dépend de toi. Fixe-toi de nouveaux objectifs. L'objectif de reprendre le bac, comme moi je l'ai fait et j'ai vu la gloire de Dieu. L'objectif de faire confiance encore en Dieu. Ça, c'est un bon objectif. Objectif de repartir à l'hôpital et de te faire suivre par un médecin afin que tu puisses avoir un enfant. Objectif de pouvoir saisir l'opportunité qui arrive et voyager, sachant que Dieu est le maître de l'univers et il n'est pas le maître d'un pays. Il est le maître de l'univers et que là où tu vas, il t'attend déjà. Il t'attend déjà. Alléluia. Objectif que toi-même tu sais qui peut aboutir. Peut-être que tu as perdu tout dans les affaires. Fixe-toi encore un objectif. Et cette fois-ci, avec la grâce de Dieu, je dis bien avec la grâce de Dieu, avec le maintenant de Dieu, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ne laisse pas la douleur te garder encore longtemps au même endroit. Ne laisse pas l'échec, ne laisse pas le divorce, ne laisse pas la séparation, ne laisse pas la maladie, ne laisse pas ce que tu traverses, ne laisse pas la perte d'un parent te garder au même niveau. Si Dieu avait fini avec toi, tu ne serais pas compté parmi les êtres humains vivants, tu serais compté parmi les morts. Mais si tu as envie, ne meurs pas moralement, ne meurs pas et ne te tue pas avant le temps. Bien-aimé, si tu m'écoutes et que tu te dis, il n'y a pas d'espoir pour moi, pasteur Esther, laisse-moi me suicider. On ne se suicide pas. Le suicide n'est jamais une voie de sortie, c'est la voie pour ceux qui échouent. Et en tant qu'enfant de Dieu, l'échec n'est pas ton partage. Voici pourquoi je dis, fais confiance à Dieu. Moi aussi, j'ai subi beaucoup de choses, mais à chaque fois, je m'encourage moi-même et je me dis, cette histoire que je traverse, ce n'est pas ma fin. Dieu a meilleur pour moi devant. Il est temps, bien-aimé, que nous puissions rire de nos ennemis, rire du futur, sachant que Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Malgré les erreurs que tu fais, malgré ce que tu as fait, il ne t'abandonne pas. Ne laisse pas la culpabilité t'envahir, mais reçois la force aujourd'hui afin de pouvoir sortir de là où tu te trouves et avancer parce que Dieu t'attend à un endroit. Regardez un peu l'histoire du prophète Élisée qui était poursuivi. Regardez un peu l'histoire du prophète Élie où après avoir tué les prophètes de Baal, a commencé à fuir. Il était découragé, mais Dieu l'a retrouvé quelque part. Il a choisi de faire confiance en Dieu. Il a avancé et Dieu lui a fait justice. Il ne l'a pas livré dans la main de ses ennemis. N'éteignons pas notre destinée. Ne nous coupons pas parce que nous ne savons pas comment les choses vont se passer. Dieu a d'autres choses que nous ne voyons pas. Dieu, c'est celui-là qui a tout le puzzle devant lui. Toi, tu n'es seulement qu'une pièce du puzzle. Fais confiance à Dieu et ne te coupe pas de ce que Dieu a préparé. Ne te tue pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu sait ce qu'il est en train de faire pour toi. Que l'amertume à partir d'aujourd'hui ne soit pas ton partage. Que la guérison divine descende dans ton cœur et que tu choisisses de faire confiance aveuglément à Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dernièrement, ce que tu dois faire pour avancer malgré ta douleur, c'est de pouvoir citer et proclamer les promesses de Dieu. Dieu a plus de 1000 promesses dans sa parole pour toi. Vous voyez, la raison pour laquelle c'est difficile pour nous de grandir dans la foi, c'est parce que on ne veut pas reconnaître et on ne veut même pas accepter que la parole de Dieu est le mot final pour nous. Quand on dit par exemple étape possédée de la douleur, on dit oh pasteur Esther, comment de faire comme ça? Est-ce que ça c'est une étape? Oui, parce que regarde, si tu vis un peu, tu vas savoir que tu n'es pas grand chose, tu ne peux pas grand chose. Et qu'il y a un être suprême qui a ta vie entre ses mains. Et que si tu lui fais confiance, les choses iront bien pour toi. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu réalises que la parole de Dieu va et doit être ton ultime, ton ultime arme que tu vas utiliser. Donc s'il te plaît, il y a plus de 1000 promesses que Dieu t'a faites dans sa parole. Prends ces promesses-là et confesse-les. Confesse-les. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les merveilles de Dieu. Il y a beaucoup de psaumes, il y a beaucoup de paroles encourageantes qui sont dans la parole de Dieu. Et je veux t'encourager à pouvoir les proclamer. Lis seulement et proclame-les. Par exemple, Ésaïe 41, verset 10, qui est source de guérison pour moi chaque fois que je suis perdu, chaque fois que je suis troublé, chaque fois que je ne sais plus où mettre la tête, chaque fois que je suis blessé. Ésaïe 41, verset 10. Attendez qu'on lise un peu ça. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ce verset-là est resté dans mon cœur et continue de rester dans mon cœur. Ce qui fait que même quand je pleure, je prends ce verset et je dis, ne crains rien, Esther, car Dieu est avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets. Ce qui fait qu'on demeure dans la douleur, c'est parce qu'on promène des regards inquiets. On ne sait pas d'où nous viendra le secours. On ne sait même pas ce qui se passe. Nos regards sont pleins d'inquiétude. Mais Dieu dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Un autre verset, Ésaïe 42, verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Toutes ces choses-là, il faut les proclamer. Alléluia. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est des choses qu'il faut déclarer. Si tu es dans le manque, déclare, je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger. Proclame les psaumes. Proclame les psaumes, ça va te faire du bien. Regarde un peu dans la parole. Vous savez, je suis tombée amoureuse de Dieu le Père en lisant l'Ancien Testament. Alléluia. Quand je prends par exemple Ésaïe 43 à partir du verset 1 et puis on va descendre. C'est un truc de proclamation, ok. Et je veux que vous puissiez prendre le temps de pouvoir lire. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, et puis tu mets ton nom, ô Esther. Celui qui t'a formé, ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. C'est dire que soit l'endroit où l'ennemi t'a gardé. L'Éternel va donner tout un pays. L'Égypte, c'est un grand pays. Il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon. Rien que pour qu'on puisse te dégager de là. Ah, Seigneur. L'Éthiopie et le Saba à ta place. Oh, Seigneur, merci. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Verset 5. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Toutes ces paroles-là m'ont fait du bien et continuent de me faire du bien. Ce qui fait que même quand je pleure, je me rappelle de ce que l'Éternel a déclaré. Il est temps, bien-aimé, qu'on ne puisse plus dire qu'on a la foi, mais qu'on pose des actes dignes de cette foi. Proclame la parole de Dieu. Récite, déclare ces choses-là sur ta vie. Chaque verset, prends-les, mets ton nom à la place et puis parle avec foi. Ne sors pas de chez toi sans avoir déclaré des paroles d'encouragement qui vont faire que toi-même tu te sentiras plus que aimé de Dieu. Quand on prend encore Ésaïe 43, toujours. Oh, Ésaïe, c'est un livre qui me fait beaucoup de bien. Quand vous prenez Ésaïe 43, verset 18, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Merci Jésus. Je veux t'encourager à lire Ésaïe, les chapitres 41, 42, 43, 44, 45. Et tous les versets qui vont te parler, souligne-les et commence à les proclamer. Ça m'a aidé durant des années. Et ça fait que quand quelque chose m'arrive, même si je pleure, je me rappelle de ce que mon père a dit. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi. Je te soutiens. Est-ce que tu sais que malgré ce que tu traverses, Dieu te soutient? Oui, il le fait. Et je suis venu te rappeler que Dieu t'aime, même si tu ne vois pas. Même s'il n'y a pas de signe, Dieu t'aime. Et une dernière chose que je vais te dire, c'est de pouvoir regarder aux autres aspects de ta vie qui marchent et que tu reçoives la guérison en les regardant, que tu saches que Dieu t'aime toujours et que ce n'est pas parce que cet aspect de ta vie-là ne marche pas que Dieu a cessé de t'aimer. Dieu t'aime toujours. Regarde un peu tes bénédictions, compte-les et tu verras que Dieu est bon pour toi et que tout n'est pas aussi amer que tu le penses. Avance malgré ta douleur. Reçois la grâce de pouvoir avancer. Reçois la force de pouvoir sauter d'un grand bond afin que tu puisses rentrer dans le mois qui arrive, dans la victoire, dans la grâce, dans la paix, dans la gaieté, sachant que Dieu est celui-là qui te dit « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi. Je te fortifie de ma main droite triomphante. Je viens à ton secours. » Crie un grand Amen là où tu te trouves. Je vois toutes ces paroles-là se matérialiser dans ta vie, bien-aimée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Si tu reçois cette parole-là, dis Amen. Et je ne peux pas finir sans toutefois prier avec toi. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Fais cette prière-là après moi. Dis, Père éternel, je te dis merci. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi tous mes péchés. J'accepte ton Fils Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, viens et règne en maître dans ma vie. Délivre-moi de tout mal et que ta volonté se fasse dans chaque aspect de ma vie. En ton nom, Seigneur Jésus, j'ai prié et je dis Amen.
Merci d'avoir écouté ce message. J'espère que cela t'a fait du bien. Rassure-toi de souscrire afin que tu reçoives tous les messages. Sache que nous prions pour toi. Dieu te bénisse.